Cet auditeur est un peu fâché contre moi aussi, puisqu'il dit quel est le rapport des émissions de Madame Rouvier avec la résistance française. Parce que jadis, nous avions nos noms, c'était le libre journal de Catherine Rouvier. Maintenant, on a des titres. On a des titres, et du coup, eh bien, monsieur, si, il y a des rapports, figurez-vous, parce que c'est la troisième émission que je consacre à « Que faut-il conserver, protéger, retrouver ?» Donc ça, c'est résister à certaines formes de modernité. Là, on vient de parler de modernité, de postmodernité. Il y a des choses dans la modernité qu'on peut trouver absolument formidables, et puis il y a des choses contre lesquelles on résiste. Voilà. Alors justement, vient d'entrer dans le studio Benoît Dutertre.
Bonjour.
Merci de venir pour la première fois, je crois.
Pas tout à fait.
Ah, vous étiez venu, d'accord. D'accord. Très bien. De venir en tout cas pour la première fois dans
cette émission.
Voilà.
Absolument.
Et vous aussi, vous venez nous parler de ce livre que vous venez de publier, Les Dents de la Mer. Et
M-A-I-R-E.
Bien sûr. M-A-I-R-E, là, les questions s'amoncellent. Et dessous, il y a Souffrance d'un piéton de Paris. Je trouve très drôle, d'ailleurs, votre couverture avec le génie de la Bastille. Mais qui n'est pas le génie de la Bastille, qui est vous, peut-être.
Qui trébuche dans Paris, encerclé par les trottinettes, les vélos, les choses à roues qui vous foncent dessus sans aucun respect pour le code de la route.
Et ce génie de la Bastille est rouge sur une tour Eiffel grise. C'était un fait très joli.
Qui surgit en fait un peu la Tour Eiffel dans l'illustration pour vous donner toutes les clés de l'illustrateur. C'est un peu inspiré par l'affiche du film Les Dents de la Mer où on voit comme ça la gueule du requin qui surgit de l'eau pour attraper le malheureux baigneur. Voilà.
D'ailleurs, vous avez fait une affiche alors pour je ne sais quel événement.
Ah, pour la librairie Tropique dans le 14e.
Voilà, où il y a effectivement où on voit le requin.
Voilà.
Donc, pour continuer avec cet auditeur, après, je regarderai quelles sont les autres questions. Et non, vous ne voulez pas...
De solution antiseptique. Ah, pour le micro, oui. Hein, peut-être. Pourquoi pas, oui.
Vous savez, ici, hein, on ne sait pas. On nous dira demain tout ce qu'il faut faire, mais déjà, on se prépare à l'avance et on met des antiseptiques sur nos micros, des fois que. Vous êtes, Benoît Dutertre, un personnage à multiples facettes, puisque à la fois vous êtes musicologue, à la fois vous êtes journaliste et à la fois vous êtes écrivain, donc ça fait déjà trois beaux aspects de vous-même. Et alors j'ai écouté vos dernières émissions sur France Musique qui s'appellent Étonnez-moi Benoît.
C'est ça, tous les samedis.
Et effectivement, ces émissions sont très étonnantes. J'ai beaucoup aimé celle où vous avez chanté La Vache à 1000 francs, qui est donc une... Pas vous-même, mais vous avez
passé... Une chanson de Jean Poiret.
Voilà.
Qui est une parodie, un détournement de la chanson de Brel, La Valse à 1000 temps, pour montrer comment la vache prend peu à peu de la valeur sur le marché, etc. C'est une dénonciation de l'agriculture industrielle, très drôle, et que j'avais passé quand je faisais une émission en direct du Salon de l'agriculture.
C'est ça, voilà. Et puis, vous recevez des gens présumés très sérieux comme Eric Orsenna,
oui.
Et vous avez là aussi des chansons des opulentes dans votre émission.
Bah oui, il s'agit de faire découvrir toute la richesse merveilleuse du musical français un petit peu disparu pour une part aujourd'hui mais pas complètement, et voilà tous ces trésors de la chanson, de l'opérette, de la revue, de la fantaisie, voilà.
Oui, c'est alors ce que j'aime bien c'est que vous n'avez pas de genre assigné, par exemple vous il y a une chanson drôle et puis après il y a Le Petit Cheval dans le Mauvais Temps qui est une chanson très tendre, et donc on se promène finalement dans votre émission très agréablement et on est surpris, c'est un fait. Vous avez réussi
j'aime l'histoire,
votre Paris.
Parce que la France est un pays de la chanson. Paris est une ville de la chanson.
Mais absolument.
Et c'est bien de le rappeler, de le raconter avec des invités. Oui.
Alors avant d'aller dans le détail de votre livre, on ne dira pas tout, sinon les auditeurs. Je voudrais dire que vous êtes normand.
Oui. Un vrai même.
Oui.
Oui, au normand donc.
Un vrai et un vrai.
un vrai, absolument. Au choix donc.
Bien que vous ne fassiez pas de politique, vous avez quand même un lien avec la politique, puisque votre arrière-grand-père était René Coty.
Exactement. arrière-grand-père, Avray lui aussi, dernier président de la 4e République, comme vous le savez, est absolument né comme moi le 20 mars, donc on a eu quelques anniversaires ensemble avant sa disparition.
En plus, votre anniversaire est tout proche
tout
alors.
Tout proche, oui.
Ah, bah, écoutez, on vous le souhaite à l'avance. Et donc, vous... Tous ces éléments font que dans vos livres, il y a une démarche qui est toujours originale, comme dans celui-là d'ailleurs. Hein. C'est que, par exemple, c'est un livre, Les Dents de la Mer, qu'on pourrait penser simplement un pamphlet destiné à détourner les gens du vote pour Madame Hidalgo dans 4 jours, car il faut tout de même rappeler.
Oh, c'est un peu ça aussi quand même.
Oui, mais c'est pas sous forme de pamphlet traditionnel,
non.
Puisque vous êtes dans un rêve en réalité. Hein. Vous
ça.
Rêvez d'Anne Hidalgo et
mon c'est... Dieu.
Mais
non, ce sont plutôt des cauchemars en réalité dans
ça.
Le livre. Hein. Voilà.
Ça, non,
je connaissais pas Benoît Duterte, mais en fait c'est un ami proche, Jean-François Zigel.
C'est vrai.
Qui m'en a beaucoup parlé dans les années 90 où il a fait le livre Le Requiem pour une avant-garde.
Exactement.
Mais là, je le découvre sous un autre aspect.
Voilà. Non, mais si vous voulez, dans ce livre, c'est bon, il se trouve que je suis romancier, donc j'avais pas envie d'écrire un essai sérieux.
C'est
mais c'est pas seulement que je suis romancier, c'est que quand j'écris pas vraiment des romans, j'aime bien quand même partir toujours d'expériences concrètes. Et j'ai voulu raconter mon expérience de Parisien au jour le jour. Donc le livre sont beaucoup de vraiment des choses qui m'arrivent dans Paris et qui témoignent de la dégradation, d'une certaine dégradation
terrible.
De la vie parisienne.
Terrible.
Mais je
d'accord.
me suis dit, voilà, justement, puisque je suis aussi romancier, je vais apporter en plus une touche supplémentaire de fantaisie avec ces scènes oniriques dans lesquelles j'imagine qu'une femme brune, ardente, débarque chez moi en pleine nuit et
j'aurais
veut...
pu être séduisante.
Voilà,
mais
qui ne l'est pas, et veut absolument changer ma façon de vivre, et me prie de me lever immédiatement pour aller faire enfourcher un vélo avec elle et traverser les rues de Paris, sauver la planète et tout un tas de projets qu'elle a pour moi, mais d'une façon assez agressive, parce que je pense qu'il y a dans la politique de la maire de Paris aujourd'hui quelque chose voilà, qui est justement un petit peu de cet ordre. On va vous apprendre comment vous devez vivre, on va complètement bouleverser votre vie, on va réorganiser votre vie, pour, non, même pas tellement pour votre bien, mais pour le bien de l'humanité tout entière, et vous n'avez qu'à nous suivre, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et voilà, je voulais un petit peu m'amuser avec cet aspect-là du personnage, donc c'est pour ça que j'ai inséré ces scènes un petit peu loufoques entre des scènes beaucoup plus sérieuses où je raconte mes aventures
c'est ça,
de Parisien.
Comme dans vos émissions, on se promène en fait.
Voilà, oui, mais j'aime bien l'idée de la promenade. D'ailleurs, voilà, Souffrance d'un piéton de Paris, avec référence aussi au piéton de Paris hein, de Léon-Paul Fabre, qui est un grand thème littéraire. Voilà, et c'est vrai que moi je suis. Vous l'avez dit, je suis Avray, je suis né au Havre, enfin à Sainte-Adresse, près du Havre, j'ai grandi là-bas, j'avais mes cousins à Paris, mais c'était quand même pour nous, c'était un autre monde. Et je suis venu à Paris faire mes études et faire mille choses, et je suis tombé amoureux de Paris comme un provincial peut tomber amoureux de Paris. Je crois que Paris, c'est autant une histoire de provinciaux que de parisiens. Vous savez, il y avait tous ces personnages qui sont tous au 18e, au 19e siècle montés à Paris, qui sont tombés amoureux de cette ville, qui en ont eu vraiment le goût. Et voilà, donc cette ville, je l'ai aimée, je l'ai parcourue, je l'ai arpenté dans tous les sens. J'ai vu ces transformations dès mon arrivée, d'ailleurs, hein, à la toute fin des années 70. C'était l'époque de la fin des grands travaux, des Halles, etc., qui étaient déjà abominables
oui,
dans leur genre.
Quel dommage. Moi, j'ai encore connu les Halles.
Voilà, moi, c'est ma plus
avec
grande tristesse de ne pas avoir connu
après.
Les pavillons de Baltard avec toute l'animation.
Si on allait en famille, ouais. Moi, prendre une soupe à l'oignon. Alors, on peut toujours avoir une soupe à l'oignon, mais il n'y a plus les Halles, c'est ça.
Voilà. Et alors, si vous voulez, à l'époque, il sortit un livre important d'un historien de Paris qui s'appelait Louis Chevalier, qui s'appelait L'assassinat de Paris. Et c'est vrai qu'il y a eu un premier assassinat de Paris, enfin il y en a eu plusieurs dans l'histoire, mais en l'occurrence dans les années 60-70, quand on a détruit les Halles, quand on a construit les ensembles de la place des Fêtes, de la place d'Italie, de Maine-Montparnasse, etc. Ça c'était un assassinat, je dirais, brutal, violent, on rase des quartiers, on fait des tours à la place. Mais ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est qu'il y a aussi... aujourd'hui une autre forme d'assassinat de Paris qui se part de la douceur et même d'ailleurs du mot de douceur puisqu'on parle
c'est
de mobilité
pire.
Douce et qui d'une certaine façon aussi dénature cette ville, la détruit, en supprime le charme et en tout cas ce qui est pour moi très important élimine peu à peu le plaisir simplement de la flânerie dans les quartiers et dans les rues de Paris.
Alors, les assassinats de Paris, c'est dans votre chapitre 7. Donc, je rappelle pour les auditeurs que nous sommes en train d'écouter Benoît Dutertre, qui nous parle de son dernier livre, Les Dents de la Mer, M-A-I-R-E, Souffrance d'un piéton de Paris. Et donc, le chapitre 7, justement, est consacré à ça, à ces assassinats de Paris.
Successifs. Que... D'ailleurs, on a toujours beau jeu de me rétorquer que finalement, oui, bon, moi je dis que la vie des Parisiens est devenue abominable avec tous ces chantiers, cette volonté de refaire la ville à tout prix, au lieu de la préserver. Mais le fait est que le baron Haussmann, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, a sans doute infligé la même chose aux Parisiens des années 1860. C'était aussi sûrement assez violent. Sauf que il a mis en place un urbanisme assez génial dans son genre, visionnaire, d'ailleurs qui a duré, d'ailleurs qui attire aujourd'hui les visiteurs du monde entier, parce qu'il y a un miracle comme ça de cette homogénéité de la ville, de cette organisation des grands boulevards avec leurs arbres, avec leur circulation, parce que c'était conçu aussi pour que ça circule bien, pour que ce soit fluide, contrairement à la mairie aujourd'hui qui veut lutter contre la fluidité, ce réseau de grands boulevards, de petites rues, de gares, de kiosques, etc. Il a créé un modèle extraordinaire, en fait. Un monde, ouais. Voilà, et je pense que, voilà, chaque ville a son histoire, chaque ville est marquée comme ça par une époque, un style, et c'est le style de Paris, c'est ça qui attire à Paris, c'est ça qui fait la beauté de Paris, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le maire de Paris devrait surtout avoir la volonté d'entretenir, peut-être d'améliorer un peu certaines choses, mais surtout d'entretenir ce merveilleux legs de l'histoire. Vous savez, je pensais, juste avant l'émission, je suis passé au petit coin, et il y avait marqué, vous êtes prié de laisser ce lieu dans l'endroit où vous l'avez trouvé en arrivant. Je regrette que Madame Hidalgo, quand elle est arrivée à la tête de la mairie de Paris, n'ait pas eu dans son bureau un truc comme ça. Vous êtes prié de laisser Paris dans l'état où vous l'avez trouvé en arrivant.
Exactement, ça aurait été déjà bien. Et vous dites d'ailleurs dans votre livre, vous évoquez la période Tibérie, que j'ai assez bien connue, et vous dites que c'est ce qu'il a fait. Alors oui, c'était Tibérie, c'était un peu comme les Fillon, c'était le couple. voilà.
Des choses qui ne passent plus aujourd'hui, sans doute, dans le fonctionnement de la politique. Certaines choses, certaines formes de népotisme, sans doute aussi. Mais c'est vrai que un des points de départ du livre, et ça c'est mon côté un petit peu mon goût d'une certaine provocation, c'était de rendre hommage à Tibérie.
Oui.
Parce que je me disais finalement, pour moi, je pense que ça a été un assez bon maire,
oui,
de Paris.
Je peux expliquer
pourquoi. Mais ce qui m'a surtout amusé, ce qui m'a donné envie de je le raconte, à un déjeuner avec un ami qui est une grande personnalité du monde médiatique.
On ne saura pas qui.
On peut deviner quand on le connaît un peu, mais avec qui je parle très librement, et on est un jour au Récamier, qui est un restaurant du tout Paris, littéraire.
Oh.
Et je lui dis, ah, tu sais, je crois que là...
Je précise pour les auditeurs que c'est au carrefour de la rue de Sèvres
et du boulevard Raspail.
Et du boulevard Raspail, dans un petit recoin près d'un délicieux jardin. Si vous n'y avez pas été, chers auditeurs, essayez d'y aller.
Et alors je lui dis, je vais... En fait, je crois que j'ai envie d'écrire un hommage à Tibérie. Et il me regarde, et un long silence tombe sur la table. Il me dit, non, tu peux pas faire ça. Comme si j'aurais pu... affirmer les positions les plus abominables dans tous les domaines, mais là je franchissais vraiment une limite qui était au-delà de tout en voulant écrire un texte d'éloge de Tibérie. Tu vas te faire du tort, tu vas te faire du tort. Et effectivement, je pense qu'il y avait dans la une grande partie de la classe politique française, de gauche comme de droite, un certain mépris en fait pour le couple Tibérie, parce qu'ils avaient un côté un peu couple de Français moyens, couple populaire, couple un peu à la Dubout comme ça, et ils faisaient pas bien dans le tableau du pouvoir d'une certaine façon. Je pense que on les a attaqués aussi pour ça dès leur élection. Mais moi, ce que je vois par contre, c'est que effectivement, c'est quelqu'un. Et c'est ce que moi j'aimerais pour Paris aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'avait pas l'ambition de refaire la ville, de sauver la planète tout entière. Il avait pour ambition d'entretenir cette ville et de la rendre agréable et praticable pour ses habitants. Pour moi, c'est ça le rôle d'un maire. Le rôle d'un maire, c'est pas de sauver l'humanité.
Bah, vous savez, l'humanité a beaucoup souffert de ces oraux qui voulaient la sauver. L'humanité en général a terriblement souffert de ces gens-là qui avaient des idées.
Mais encore, on peut dire que c'est peut-être le rôle d'un président de la République, mais en tout cas pas d'un maire, quoi.
Mais c'est sûr, moi, quand on est dans une ville comme Paris, oui, il y a un minimum de respect. Oui.
Alors vous dites, ça c'est à la page 122 de votre livre, donc les Dents de la Mer. Vous dites, après avoir dit que votre intérêt pour Jean Tibéry, maire de Paris de 95 à 2001,
et la merveilleuse Xavier,
voilà, et cette épouse qu'on vit souvent à ses côtés durant 6 années de règne jugée désastreuse et qui s'achevèrent par le basculement à gauche d'une ville réputée de droite. Cette femme évoquait pour moi, écrivez-vous, certains personnages du dessinateur du bout. Son mari, bien qu'assez grand, semblait presque fluet à ses côtés. tandis qu'elle apparaissait massive, énergique et protectrice. Elle allait montrer d'ailleurs cette force de caractère lors des épisodes judiciaires où, prise la main dans le sac, elle n'irait en bloc et se dresserait pour protéger sa famille. Xavier Tiberi, né Casanova, on savait pas ça, me rappelait aussi ces marchandes des quatre saisons, ces crémières ou ces poissonnières qu'on voit encore sur les marchés de Paris, spécialement dans ce 5e arrondissement où elle avait régné avec son époux pendant 12 ans avant d'accéder à l'hôtel de ville. J'aime beaucoup ce portrait.
Mais écoutez, moi je les connais pas vraiment. Par le biais d'une amie commune, j'ai pris un café avec Jean Tiberi à l'époque où je commençais à réfléchir à ce livre. Et après, je suis parti avec lui à pied vers la montagne Sainte-Geneviève, tout ça. Mais vous pouvez imaginer le nombre de gens, de commerçants, d'habitants du quartier qui venaient
pour
le rencontrer, le saluer, le remercier, le féliciter. Et en plus, je nuance un peu le portrait parce qu'on veut en faire une espèce d'homme de l'ombre, vous savez, l'homme de l'ombre de Chirac, etc. Mais je raconte comment ça a été en réalité. C'était un gaulliste de gauche. À l'origine, Tiberi, il était proche de capitaine de tout ce mouvement social, cette partie sociale du parti gaulliste. C'était quelqu'un de la première heure, bien avant de connaître Chirac, hein, quelqu'un qui a été engagé d'une façon intéressante. Et puis, il a beaucoup protégé effectivement le petit commerce dans son quartier. Et ce que je raconte surtout, c'est le double traitement, c'est-à-dire que depuis le jour de son... Et c'est là où je dis, en France, c'est le pays des étiquettes. Lui, on voulait s'en débarrasser. Dès le jour de son élection, quoi qu'il fasse, il s'est systématiquement fait désinguer par la presse. Et pourtant, c'est lui qui a lancé les pistes cyclables, qui a fermé les voies sur berge le dimanche, etc. On n'en parlait quasiment pas. Et je cite même un article du Monde. C'était mieux d'ailleurs, oui. Un article du Monde qui dit « Ah, Monsieur Tiberi veut fermer les berges, mais il ne pense pas aux banlieusards. » C'est le mépris des Parisiens pour les banlieusards. Et donc, c'est extraordinaire. Le Monde dit ça quand c'est Tiberi qui le fait. Et par contre, quand quelques années après, c'est Anne Hidalgo qui ferme brutalement, sans prévenir personne, la voie pour Georges Pompidou, et que les banlieusards sont réellement dans une situation catastrophique, jamais, jamais le journal ne va attaquer cette mesure au nom de la défense du peuple banlieusard, mais va au contraire présenter ça comme un effort extraordinaire pour
Absolument.
Sauver Paris et la planète.
Alors justement, chers auditeurs, avant ce vote de dimanche, surtout, achetez les Dents de la Mer et lisez-le, parce que vous verrez que, contrairement au bilan de Tiberi qui vient d'être brièvement tressé par Benoît Duterte, le bilan de Madame le Maire, puisque moi je préfère dire Madame le Maire, voilà, à l'ancienne, de Madame le Maire à Hidalgo est tout à fait catastrophique. Et alors, dans votre ouvrage, donc, il y a plusieurs chapitres qui sont justement voués à décrire les choses qui vous déplaisent et qui nous déplaisent. Et puis, il y en a un qui est amusant, qui est le seul rêve positif que vous faites, c'est vous rêvez que vous êtes maire de Paris, et donc que vous allez... Alors ça, c'est le chapitre 11, reportage parisien de notre envoyé spécial. Et alors, ce qui m'a beaucoup plu, là, je vais vous dire, j'ai vraiment craqué.
C'est aussi loufoque
tout à la
que
fin.
Mes cauchemars avec
Hidalgo. Hein. Oui, non, mais moi, ça m'a beaucoup plu. Tout à la fin, à la page 173, vous imaginez qu'il est décidé le dernier dimanche de chaque mois de procéder en public au supplice de la fessée infligée aux tagueurs de monuments contre lesquels il, donc vous, exerce une traque sans relâche. Alors ça m'a fait plaisir, parce que je ne supporte pas l'idée qu'on dise qu'il s'agit là d'un art. Si on fait ça sur quelque chose, sur un mur spécialement, quelque chose, pourquoi pas ? Mais quand on fait ça sur un monument, c'est comme si on le déformait, comme si on le détruisait, comme si enfin c'est très, et c'est cette tolérance, plus qu'une tolérance, c'est promu les tags. C'est
enfin, ça dépend. Je crois pas que dans le centre de Paris ils soient tellement promus, mais ils font créer des désastres abominables.
On les laisse quand même beaucoup.
On les laisse faire. Et surtout il y a un manque effectivement parfois d'entretien de la ville. Par exemple, je peux vous donner un exemple puisque j'habite près du marché aux fleurs de l'île de la Cité, qui est un endroit ravissant, qui est dans que la ville a plus ou moins la volonté de refaire différemment,
mon Dieu,
parce qu'il s'agit d'aménager toute l'île de la Cité en base touristique, et le tourisme étant un des fléaux de la politique municipale. Mais comme on veut plus ou moins détruire et refaire le marché aux fleurs, on le laisse se dégrader. Et là, on laisse effectivement les tags proliférer sur tous ces petits pavillons ravissants de la fin du 19e siècle. On laisse les fontaines Wallace rouiller, tomber en morceaux, etc.
Et comme ça,
quand tout ça sera tombé à moitié en ruine, on dira, bah vous voyez dans qu'elle est assez, il faut tout refaire, on va refaire le marché aux fleurs, et on va faire, comme l'a proposé l'architecte Dominique Perrault en charge de ce projet, une grande cloche de verre au-dessus du marché aux fleurs pour créer un lieu attirant pour les touristes et organiser des animations. Voilà. Voilà ce que c'est que de ne pas aimer Paris, quoi.
Alors, il y a une autre page que je vais citer qui va faire plaisir à notre auditeur qui, tout à l'heure, contestait le fait que je sois une émission de résistance. À la page 20 de votre livre Les Dents de la Mer, donc Benoît Duteurtre, vous parlez des slogans actuels comme par exemple Run My City. Alors, je suis obligée de le dire en anglais puisque c'est précisément en anglais. Run My City. Je cours ma ville.
Ce qui ne veut rien dire en anglais, absolument. D'ailleurs, au demeurant.
Et donc, vous dites la municipalité parisienne ajoute donc. Différentes manifestations et toutes finalement toutes les manifestations de cette activité festive qui tiennent lieu de politique citoyenne ont des noms, des titres à consonance anglophone. Innovation Day, Cities for Life.
Bien sûr. Mais c'est surtout. Il y a deux choses. Bien sûr, de la soumission à l'anglais dans les titres des manifestations municipales, c'est une chose. Là, en l'occurrence, d'ailleurs, c'est une marque en plus, Run My City. C'est un truc qui existe en plein de villes du monde. Alors, on est fiers parce qu'on a tous le même t-shirt avec marqué Run My City. Et puis, on va runner dans la city en faisant des photos avec son téléphone portable.
On va runner sa city.
Mais moi, le problème, c'est que comme j'habite près de l'hôtel de ville, ça se traduit d'abord le dimanche matin par des tambours qui commencent à 8h du matin pendant que la foule en délire se rassemble. Et ça, c'est une des choses qui se produisent à peu près toutes les semaines sur le parvis de l'hôtel de ville, qui est devenu un lieu de communication et de propagande de la mairie où ça ne s'arrête jamais. Alors un jour c'est la fête de l'eau, un jour c'est la fête de l'air, un jour c'est la fête de l'Europe, un jour c'est la fête des femmes. Il y a toujours une fête, il y a toujours du bruit, il y a toujours de la musique et quelque chose qui est infligé aux Parisiens parce que la ville se prend pour comme ça un grand animateur de fêtes collectives. Ça avait commencé avec la Gay Pride, de la Techno Parade, etc. Mais maintenant c'est tout ce que la municipalité sait faire, quand dans le même temps d'ailleurs, elle ne soutient pas forcément très bien ces théâtres de quartier, etc., dont certains ont été transformés en centres d'animation alors qu'ils avaient des jolies programmations. Alors voilà, la ville, elle veut faire de l'animation populaire, et le parvis de l'hôtel de ville est devenu sa scène privilégiée, où on affiche en plus toutes les bonnes causes qui défilent, parce que c'est toujours les bonnes causes, sur le parvis de l'hôtel de ville. La ville, d'une certaine façon, fait sa propagande comme ça. Alors un jour c'est pour les femmes, contre les féminicides, un jour c'est pour les LGBT, un jour c'est la liberté d'opinion, des tas de causes sans doute fort, fort louables, mais on voit pas là encore quel est en quoi c'est le rôle de sa ville que de s'afficher tout le temps comme ça, comme une espèce de média d'opinion relayé par les tweets de Madame Hidalgo.
Le militantisme, c'est quelque chose qui ne lâche pas quelqu'un tout au long de sa vie. Alors, quel que soit le poste qu'il occupe ou qu'elle occupe en l'occurrence, c'est terrible parce que ça ne devrait pas. Le maire de Paris, comme d'ailleurs le président des Français, la France devrait être celui de tous les Parisiens.
Absolument.
Et de tous les Français.
Absolument.
Là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment. Alors, il y a beaucoup de passages amusants, mais j'aime bien celui-ci. Donc c'est à la page page 27 de votre livre Les Dents de la Mer. Vous parlez des potelets. Vous m'avez appris quelque chose, car je ne connaissais pas le nom de ces horribles choses sur lesquelles, d'ailleurs, ma voiture est allée s'encastrer gentiment il n'y a pas très longtemps.
Alors, les potelets, c'est pas du Hidalgo, c'est bien plus ancien.
Oui, mais il y en a partout.
C'est les petits
poteaux
qui empêchent les voitures de se garer, mais qui aussi empêchent d'une certaine façon le piéton de se promener librement.
Voilà.
Et ce sont les potelets qui faisaient dire à Cioran.
Voilà, c'est ce que je voulais lire.
La phrase de Cioran.
On appelle cela des potelets qui compliquent la déambulation autant que le stationnement. Un deux roues qui slalome manque de me renverser. Entre les garages à Vélib et les poussées de chars d'assaut, l'espace reste mince pour le piéton. Et je me rappelle le mot de Cioran à Kundera. L'événement le plus important de la seconde moitié du XXe siècle, c'est la disparition des trottoirs.
Voilà. Et c'est vrai que ce sont des choses très concrètes de la vie quotidienne, mais aujourd'hui le trottoir devient un endroit de stress et d'angoisse puisqu'on ne sait jamais qui va vous débouler dessus à toute vitesse au mépris de toute réglementation. En général, le cycliste, mais le cycliste étant perché sur son vélo, le chevalier preux qui va sauver la planète, ça lui donne à peu près tous les droits de passer sur les passages cloutés, à contresens, de griller les feux rouges, de venir sur le trottoir, etc. Sur la zone qui a été
remarqué, ils sont tous très hauts.
Très haut. Sur les zones qui leur ont été attribuées. Mais aussi, parce que ça ne saurait suffire, sur la petite portion qui reste réservée en principe aux piétons. Et notamment, il y a une partie des trottoirs de Paris, par exemple, vers le quai de New York, ou encore pas loin de chez moi, près de l'hôtel de ville, où carrément le trottoir a été réduit de moitié pour laisser place à la piste cyclable,
oui.
mais qui n'est pas vraiment séparée, donc vous savez jamais trop où vous marchez, c'est très angoissant, et surtout, le cycliste est quand même le champion de l'incivilité. Moi, j'avais cru longtemps que, en fait, c'était des comportements propres aux automobilistes, que la grossièreté systématique et la mauvaise foi. Vous savez, l'automobiliste, quand on le prend en tort, il commence toujours par vous crier dessus au lieu de reconnaître son tort. Eh bien, le cycliste est pareil et peut-être même pire.
Et même si les piétons maintenant. J'ai un piéton l'autre jour qui m'a tapé sur le toit de ma voiture de manière extrêmement violente. Voilà. J'ai pas compris pourquoi. Je pense qu'il pensait que c'était à lui de passer, mais non, c'était pas à lui de passer.
Ouais.
Un piéton.
Voilà, c'est ça. Et
c'est fou quand même.
Donc voilà, c'est pas vraiment ce qu'on appelle les mobilités douces, tout ça. C'est plutôt un climat un petit peu de tension et de conflit perpétuel entre toutes ces micro-communautés qui sont les cyclistes, les trottinettistes, les piétons, les automobilistes, etc., etc.
Alors vous savez que Kundera écoute Radio Courtoisie, nous l'avons su parce que Michel Déon, que j'ai invité dans cette émission, et d'ailleurs oui, j'étais à la messe qui a été dite.
Bien sûr, mais j'ai bien connu Michel Déon.
Et donc Michel Déon, qui avait fait quelques déclarations du reste fracassantes, formidables dans son style quand il était venu, nous avait dit ça. Voilà. Et Kundera et Déon vous ont beaucoup lancé, dans la littérature, je crois.
Oui,
ils vont.
C'est vrai. C'est vrai.
Vous avez eu la chance de rencontrer des gens formidables, puis de mériter leur attention surtout. Alors, je vois que l'heure tourne, comme on dit bêtement, et que les questions des auditeurs s'accumulent, et donc il faut que je les lise.
Mais nous sommes là pour peut-être.
De toute façon, voilà, tout ce qui n'aura pas été lu ici, les auditeurs iront le lire. Je suis née dans le 15e, donc ça c'est une auditrice. Je prends la défense de Tibéri, cet homme qui a fait beaucoup de bien au quartier. Mais il a été mal entouré.
Bon, ça, c'est très bien.
Monsieur Duterte, alors je vous informe que le coach en français signifie cache. Celui qui guide. Non, coche. Celui qui guide les chevaux. C'est pas toujours facile à dire.
Ah, le coche.
Voilà,
ah, oui.
Celui qui guide les chevaux. Alors on peut dire coche au lieu de coach pour faire plaisir, voilà, pour garder la langue française. Et c'était là, faire beaucoup d'honneur à ceux qui sont cochés. Monsieur Duterte, après la version de Véronique qui a été donnée au Châtelet et que j'ai adorée, j'attends avec impatience la prochaine opérette revisitée si toutefois il y a un projet en route.
Oui, mais justement, c'est le problème. Ça renvoie aussi au sujet de ce livre, c'est-à-dire que effectivement, j'avais travaillé à l'adaptation de l'opérette Véronique mise en scène par Fanny Ardant il y a quelques années au Châtelet, parce que j'aime beaucoup ce répertoire.
Et Fanny Ardant.
Et le Châtelet était à ce moment-là encore un théâtre de grand spectacle musical, et il est resté jusqu'à l'arrivée d'Anne Hidalgo. Ça a été des formes de théâtre différents. Il y a eu beaucoup d'opérettes, il y a eu de l'opéra, il y a eu avec Jean-Luc Choplin, l'avant-dernier directeur, beaucoup de comédies musicales. Américaine, mais de grande qualité. Et puis, Madame Hidalgo est arrivée, elle a nommé une nouvelle direction, et elle veut en faire un lieu de militantisme citoyen. Alors, ça a commencé par des parades dans le quartier pour les familles, sur le cirque. Et puis après, on a eu une succession de spectacles qui sont tous des choses militantes sur le genre, sur le racisme, sur tout ce qu'on veut. Mais peu importe. Je veux dire, que ce genre de spectacle existe, c'est une chose, mais pourquoi transformer le Châtelet, qui depuis plus d'un siècle est un spectacle, un théâtre de grand divertissement musical, en théâtre militant, gauchiste, ça n'a vraiment aucun sens, et c'est bien dommage pour cette maison qui a une histoire si fabuleuse. Mais j'espère qu'on y remontera des opérettes une fois que peut-être la mairie aura changé.
L'auditeur est plein d'espoir, s'il vote bien, on ne sait jamais. Alors, ça c'est un auditeur. La résistance française à l'anglais ne se retrouve pas dans votre émission, baby boomer, etc. Mais oui, cher monsieur, mais écoutez, on fait ce qu'on peut lorsqu'on parle d'un sujet qui précisément emploie des termes qui sont en anglais. Eh bien, nous ne sommes quand même pas aussi sectaires.
Ah non, mais je vous dis, je suis un auditeur depuis longtemps de Radio Courtoisie. Dès que vous dites un mot en anglais, paf.
Oui, non, mais il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas non plus déconsidérer une cause.
Donc Catherine est génération Z de Radio Courtoisie.
Voilà, c'est ça. Alors, bonsoir. Pourrait-on remplacer coach par tuteur, tutrice ou pilote, coworking par co-travail ou travail collaboratif, burn out par saturation? Voilà. Cher coach, on va dire maintenant coach au lieu de coach, Elisabeth, eh bien, votre prochain combat sera de modifier, mais c'est pas tout à fait ce que vous nous avez dit, parce que vous nous avez dit que cette génération eh bien, pratique l'anglais quotidiennement et donc aurait un petit peu de mal. Mais on ne sait pas, hein, peut-être qu'ils seraient ravis. Nous, on était bien ravis d'apprendre le grec, que c'était des trucs compliqués, qu'on avait. Ça peut être intéressant de trouver des vieux mots.
De réapprendre le français.
Mais c'est vrai que dans mon livre, je me suis astreinte hein, vraiment à parler, à mettre les mots en français, mais c'est vrai que dans le langage courant de cette génération, ils parlent beaucoup en anglais. Enfin, on utilise beaucoup.
Oh, mais décidément, vous voyez, hein, vous disiez tout à l'heure, on est bien, on est zen, mais quand même, heureusement que nos auditeurs ne sont pas dans le studio, parce que, bon, alors, cher auditeur, vous aussi, étonnant d'entendre sur Radio Courtoisie une invitée qui parle franglish. Bon, bah écoutez, oui, c'est étonnant, mais il faut étonner moi, Benoît. Moi, je suis tout à fait pour étonner. Voilà. À propos d'écouteurs portés par les jeunes, un auditeur se souvient d'avoir souvent remarqué qu'en région parisienne, le son de ces écouteurs, d'une rame à l'autre, on pouvait entendre le son des écouteurs. Ah bah oui, non, mais c'est très très gênant. Hein. Si vous-même vous n'en avez pas dans le train ou ailleurs, ce serait pénible. Essayer de travailler dans un TGV avec quelqu'un qui écoute à côté, c'est pénible. Hein. Rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui on propose le remboursement à 100% des appareils auditifs. Bon, je sais pas qui propose le remboursement à 100%, mais bon. Start-up jeune pousse, d'après Alfred Gilder, coworking, co-travail, tiers-lieu, etc. Je suis obligée d'avoir mon dictionnaire à portée de main pour vous comprendre. Mais voilà, c'est très bien, les occupe nos auditeurs comme ça. Comment votre invité interprète-t-elle les relations tendues entre les boomers et les 30 ans ? Les 30 ans, oui. Et les 30 ans.
Oui, je pense que c'est référence avec ce qui a été viral sur le net, qui a été OK Boomer. Oui. Alors, on peut lui répondre OK Zoomer.
Voilà, donc il y a eu un livre OK Boomer. Moi, ça m'exaspère ce titre d'OK Boomer. J'ai un de mes.
Et moi aussi, je partage. Enfin,
un de mes chroniqueurs auquel j'ai presque interdit. Alors, un de mes chroniqueurs vient de rentrer dans le studio, donc Charles-Henri Desloin. Mais ce n'est pas lui qui emploie le mot Boomer. C'est Julien. Et donc, non seulement je me sens visée, mais en plus, c'est toujours. Alors, il se croit quand même obligé de dire. Mais en fait, non, c'est pas toute la génération. Ah, j'espère. Bon, bonsoir. Le numérique nivelle par le bas. Pouf. Aujourd'hui, le quidam se prend pour un photographe, un graphiste, un musicien, parce qu'il a un appareil photo récent, un logiciel dédié sur son téléphone portable ou son ordinateur. La génération Z est la génération de la médiocrité arrogante. Jérôme de Saint-Simon.
Lisez ce livre, c'est la génération Z au rayon X. Ça va voilà. Peut-être parce que qui est Jérôme réconcilier avec cette génération, justement.
Qui est Jérôme de Saint-Simon ? Vous savez pas. D'accord. C'est peut-être lui. Ah non, il y a des guillemets, donc je suppose que c'est. Voilà, que c'est pas lui. Ah bah si, c'est. Enfin bref. Bref. Voilà. Oui, alors donc lisez. Lisez le livre, donc, d'Elisabeth Soulier, la génération Z au rayon X. Voilà. Assez de ces mots anglais. Je vous conseille le petit livre d'Alfred Gilder intitulé Le petit dico franglais français. Ainsi, traduit par page 103, coach, par mentor. Décidément, on a au moins 5 ou 6 définitions. Hein. Mentor, mentorat ou assistant, assistante, bien cordialement. Voilà, donc on s'est bien fait engueuler. Ils n'ont pas encore eu le temps, certainement,
d'engueuler Benoît Duterte.
Voilà, ça va venir.
Chacun son tour.
Alors là, il y a un compliment, il y en a quand même. Hein. Je me régale à écouter Monsieur Duterte. Quel verbe et quel humour. En revanche, Xavier Tiberi, ex-socialiste, qui maîtrisait moins bien la langue de Molière et davantage celle d'Arpagon, a appelé à voter Macron en 2017. Bonne soirée. Ils sont très politiques, hein, les auditeurs, il faut dire. C'est très amusant. Oui, c'est la fin, heureusement, parce que cette question, on va la sauter carrément. Paris est devenue la ville de l'Homo Festivus.
C'est dommage, parce que justement, l'Homo Festivus, il n'a fait rien.
Ah, oui. L'Homo Festivus, si cher à notre regretté Philippe Muret, qui fait aussi partie des auteurs que vous avez fréquentés et qui vous ont soutenus. Et la dernière, puisque c'est l'heure de la pause, Madame Hidalgo est socialiste et le socialisme a pour but de faire le bonheur des autres malgré eux. À propos des cyclistes, j'ai observé qu'il y a fréquemment des accidents entre cyclistes ou des accidents entre cyclistes et piétons. Voilà. Donc nous avons notre petite pause et nous reprendrons dans quelques minutes. Paris est-il resté le même ? Ah oui, au Moyen-Âge, il y a eu des démolitions de monuments. N'y a-t-il pas eu des Hidalgo qui n'en ont fait qu'à leur tête. C'était pas le genre. Le Parisien veut toujours avoir raison et ça a toujours souffert, fait souffrir les provinciaux. Les provinciaux en ont souffert. Alors bon, c'est vous qui allez répondre, mais c'est quand même une question intéressante parce que justement, le Moyen-Âge, on ne pouvait pas faire ce genre de facétie précisément.
Enfin, sans remonter jusqu'au Moyen-Âge, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les assassinats de Paris n'ont pas commencé effectivement aujourd'hui, il y en a eu de très violents au fil des siècles, notamment au XIXe siècle, quand on a refait tout Paris en détruisant une partie de l'ancien Paris. Alors, donc c'est devenu de bon ton de critiquer les grands travaux du Second Empire, en plus, parce qu'on nous explique toujours que c'était pour réprimer la Commune, etc. Mais en réalité, oui, c'était des travaux assez géniaux, comme je le disais tout à l'heure, dans la façon dont ils ont réorganisé la ville d'une façon visionnaire. Parce que la façon dont le boulevard haussmannien justement s'adaptait au développement de la circulation au XXe siècle, au remplacement des voitures à chevaux par les voitures automobiles, etc. Cet équilibre entre les trottoirs, les arbres, les immeubles à six étages, le mobilier urbain de l'époque qu'on remplace aujourd'hui devant l'hôtel de ville par des poutres en bois croirait oubliées d'un chantier, ou devant le Panthéon par des blocs de pierre pour montrer qu'on aime la nature, mais qu'au fond qu'on n'aime pas la ville. C'est ça le problème souvent de cette mairie, c'est qu'elle donne l'impression de ne pas aimer vraiment la ville et de vouloir faire le contraire de ce que faisait Alphonse Allais qui voulait implanter les villes à la campagne. Ils veulent implanter la campagne à la ville, mais aime dans la ville, c'est que ce soit une ville en même temps. Bravo, là, il y a quand même un petit problème.
Bravo.
Un témoignage de Parisien qui vit dans le 20e arrondissement, c'est-à-dire moi, par rapport à ce que disait Benoît tout à l'heure, un truc génial, mais vraiment qui va tout à fait dans ce sens-là. On a refait donc très récemment la place Gambetta, qu'on a diminué considérablement en installant, alors tenez-vous bien, en installant une série de bancs. Alors là, je me demande quelle est l'intelligence qui a eu l'intelligence d'installer une série de bancs sur un endroit qui est encore plus petit qu'avant, où il va y avoir encore plus de voitures, encore plus de gaz qui vont sortir des échappements. Qui va s'asseoir là-dessus? Non, enfin, je veux dire, c'est les places pour des futurs cancéreux, quoi. Je veux dire, c'est incroyable.
On peut pas donner tous les exemples parce qu'il y en a trop et c'est tout le temps.
Mais c'est surtout que c'est une politique de coûts et de com. C'est-à-dire, c'est toujours, on va refaire toutes les places de Paris, on va créer des forêts, trucs complètement déments. Mais par contre, qu'est-ce qui est fait pour entretenir simplement le petit square parisien qui, lui, fait partie de cet équilibre merveilleux qu'il y a à Paris, d'une certaine façon, entre la ville et la nature? Les gardiens de squares ont quasiment disparu des squares. Moi, je me rappelle mon installation à Paris, j'ai raconté ça dans un roman, je rêvais tous les matins en penchant à la fenêtre, en voyant le gardien qui arrivait, qui s'occupait de son square comme un bon père de famille, qui faisait couler l'eau, qui entretenait le lieu, etc. Aujourd'hui, les squares sont à l'abandon. Ils sont parfois envahis par les rats, on le sait également, mais c'est quand même, d'une certaine façon, là encore, on délaisse ce qui fait la beauté de Paris, l'unité de Paris, pour créer des grands projets aussi déments que, ou aussi bien, ça c'était Monsieur Griveaux, mais d'aller transformer la gare du Nord en Central Park à la française, parce qu'il faut toujours des références américaines, ou faire des potagers comme en Californie, etc.
C'est un ringard.
Non, mais je crois quand même, c'est quand même important de signaler aussi qu'il était impossible que cela arrivât au Moyen-Âge, sauf destruction de la ville en cas de guerre, tout simplement parce qu'il y avait les guildes, il y avait les professions qui étaient organisées, qu'il était hors de question de faire quelque chose qui ne soit pas dans la tradition. C'était quand même. Alors, au 19e, évidemment, c'est tellement différent, mais on peut dire que l'entreprise Haussmann a été une entreprise de construction, de destruction, mais de construction, alors qu'aujourd'hui, c'est seulement la destruction. Quand vous regardez la place du Panthéon, qui est quand même une des plus belles places, moi j'y ai fait toutes mes études et j'aime beaucoup, ce sont des blocs de pierre et ce sont des espèces de planches de sapin les plus moches possibles, mises dans tous les sens. C'est un chaos. Il n'y a pas de construction, c'est un chaos.
Et quand vous voyez comment le vaste et fluide boulevard haussmannien s'est transformé en juxtaposition de couloirs à quasiment infranchissable, parce qu'on ne sait jamais de quel côté va venir la circulation, et chacun dans sa case, les cyclistes, les automobilistes, les vélos, les taxis et les autobus. C'est une espèce de, j'appelle ça le communautarisme de la circulation. Vous savez, ce sont des petits groupes qui finissent tous par se haïr et essayer chacun de défendre leurs propres intérêts, et c'est le contraire de ce beau boulevard qui a été si important dans l'histoire de Paris.
Alors, cher Benoît Duteurtre, un mot de conclusion.
Merci de m'avoir reçu très aimablement.
Pour dimanche,
alors je ne vais pas dire sûrement pas pour qui voter, mais vous avez compris pour qui il ne faut surtout pas voter. Donc il faut faire s'allier, tout faire pour que au moins on est quelqu'un de nouveau à la tête de l'hôtel de ville, même en allant parfois un peu contre éventuellement ses affinités les plus immédiates, mais c'est ça le but.
Merci beaucoup, puis nous serons à l'écoute de Écoutez-moi Benoît, c'est samedi, beaucoup. C'est le samedi.
Étonnez-moi Benoît, tous les samedis à 11h sur France.
Voilà, donc voilà. Ne le manquez pas, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.